Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invité est Jean Cottreau, il est psychiatre honoraire des hôpitaux, ancien chargé de cours à l'université Lyon 1, membre fondateur de l'Académie de thérapie cognitive de Philadelphie et ancien président de la Société européenne de thérapie comportementale et cognitive. Il vient de sortir un nouveau livre qui s'intitule « Se libérer de l'emprise et des personnalités toxiques » et c'est un livre qui est paru aux éditions Odile Jacob. Jean Cottreau, bonjour.
Bonjour.
Alors, finalement, qu'est-ce que vous nous proposez dans ce livre ?
Eh bien, je vous propose une méthode pour se libérer de l'emprise. C'est le titre, c'est un livre sur la liberté, en réalité. Parce que l'emprise se manifeste par un contrôle contraignant et répété, physique ou psychologique, qu'exerce un prédateur ou une prédatrice sur un ou une victime, ce qui est extrêmement large. Ça peut être l'emprise dans le couple, ça peut être l'emprise au travail, ça peut être l'emprise en politique, donc qui est largement traitée dans le livre. Et j'ai quand même focalisé sur les troubles de personnalité, c'est-à-dire que la personnalité du prédateur et la personnalité également du prédaté, parce que c'est un drame qui se joue à deux personnes.
Alors justement, à partir de quand on peut dire qu'on est face à une personnalité toxique ? C'est quoi exactement une personnalité toxique ?
Une personnalité toxique, ça correspond grosso modo au DSM-5 qui classifie les personnalités et qui donne un seuil pour définir une personnalité. Parmi les personnalités toxiques, vous avez les personnalités narcissiques dans leurs différents niveaux, les personnalités paranoïaques, les personnalités psychopathiques, à un certain degré, les personnalités perfectionnistes, obsessionnelles compulsives, la personnalité borderline aussi, fait partie des personnalités toxiques, c'est-à-dire qui crée un mécanisme de dépendance et de contrôle sur les autres, parce que c'est la dynamique de leur personnalité. Donc il y a des critères, dans le livre vous avez au début une définition de ce que sont les personnalités et un moyen de comprendre comment elles fonctionnent et des échelles d'évaluation. En particulier, il y a un regroupement de traits de personnalité qui est particulièrement toxique, qui est la tétrade noire, qui associe le narcissisme, la psychopathie, le machiavélisme et le sadisme. Donc c'est le fond de la personnalité des manipulateurs et des personnalités toxiques et qui font l'emprise. C'est aussi la personnalité de nombreux dirigeants politiques.
Voilà, donc finalement ça fait beaucoup de monde, hein. Peut-être même au sein d'une famille, une situation comme ça peut se produire, hein. Est-ce qu'il peut y avoir une relation toxique entre parents et enfants, par exemple ?
Absolument. Parmi les gens à qui j'ai donné mon livre, il y en a beaucoup qui ont tout de suite identifié une personne dans leur famille comme étant toxique.
D'accord.
Ça sort tout de suite, ça sort tout de suite. Le livre, c'est très très étrange, le livre, tous ceux qui le lisent et qui en direct m'en parlent me disent « mais ça correspond à une personne ou à une situation que j'ai vécue au travail ou à une situation qu'on peut repérer dans la politique ».
C'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a des gens qu'on aurait souhaité ne jamais rencontrer, hein. C'est quelque chose, ouais, malheureusement, qu'on expérimente à longueur de journée. Donc finalement, comment se manifeste justement cette emprise sur autrui ?
Eh bien, c'est progressivement, ce que décrivent les victimes, en général, c'est un sentiment d'étouffement dans la relation, c'est-à-dire que la personne a un mélange d'attraction et d'anxiété dans la relation, et elle décrit un personnage aux humeurs changeantes, qui peut aller faire souffler le chaud et le froid, un personnage souvent paradoxal, et surtout, tout ça aboutit à une sorte de dévalorisation de la personne, qui a l'impression d'être attaquée dans ce qu'elle est, ou pour ce qu'elle est, et petit à petit, son champ de liberté se réduit, et cela se voit surtout chez les personnes qui sont dépendantes financièrement ou qui sont coincées dans une vie de couple insatisfaisante. Et progressivement, la personne a aussi l'impression qu'on cherche à la faire passer pour folle, ce qui est l'extrême de la manipulation et de la contrainte.
Et c'est fréquent, ces situations ?
Alors, moi, je vois effectivement, les psys, on voit que ce qui va mal. Mais ce sont des situations extrêmement fréquentes et qui sont connues de longue date. Et il suffit de lire les romanciers, les cinéastes, etc., de voir les cinéastes, etc. C'est quelque chose qui est très connu, dont on parle beaucoup plus actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que l'omerta existe moins et que les choses sortent. Et, mais aussi, c'est ce qu'on voit aussi dans les situations de féminicide, dont on parle beaucoup actuellement, qui est quelque chose d'assez connu, mais en hausse, parce que les couples sont de plus en plus explosifs, et la drogue, l'alcool fait son effet, les circonstances économiques obligent les gens à rester ensemble, alors qu'ils pourraient se quitter, et on a des situations qui aboutissent au féminicide, ce qui est typiquement une situation de contrainte majeure, c'est que la personne n'a plus le droit de partir.
Alors, Jean Cotreau, est-ce que l'inverse existe également? Alors, le féminicide existe, bien sûr, et c'est une vraie tragédie, c'est une plaie de notre époque, et peut-être de toutes les époques, en fin de compte. Mais est-ce que l'inverse existe? Est-ce qu'il existe également des femmes qui sont des personnalités toxiques et qui exercent une emprise sur leur mari, sur leur compagnon?
Exactement. Alors, dans le livre, c'est 50%. Hein, donc, mais en général, l'emprise, c'est plutôt deux tiers d'hommes pour un tiers de femmes. Mais il y a effectivement, c'est le personnage de la vamp classique de cinéma. Et dans le livre, vous avez une description d'une personnalité borderline qui met sous emprise un jeune homme qui lui est utile pour sa carrière. Et d'un certain côté, l'homme est content sur le plan sexuel, mais d'un autre côté, bon, il est dépendant et il supporte mal la rupture. Donc c'est le personnage classique de la vamp qui entraîne dans les films noirs, dans les romans noirs et dans la réalité, un homme vers sa fin. J'ai vu ce type de cas d'un homme qui avait été entraîné vers sa fin et qui était à l'hôpital psychiatrique et qui était allé se suicider chez sa femme. Il n'y a pas de côté genré dans ce genre de situation.
Jean Cotreau, comment peut-on se libérer de ces emprises?
Eh bien, alors pour se libérer de l'emprise, il faut d'abord en être conscient. Donc, à la fin du livre, je propose une échelle d'évaluation de la relation qui permet de sentir venir le danger et ne pas s'engager trop dans une relation où on voit que l'emprise est déjà à l'œuvre. Alors, donc là, il y a une échelle d'évaluation qui permet de comprendre ce qui se passe dans la relation. D'autre part, quand la relation est engagée depuis longtemps, ça va être difficile et ça va dépendre du type de personnalité, mais on peut dire que globalement, il faut se fier à l'entourage qui vous connaît depuis longtemps. Et à ce moment-là, il faut voir si la personne qui exerce l'emprise cherche à couper de son entourage habituel, la famille, les amis, les vieux amis, etc., pour exercer un contrôle. Donc il faut se fier aux amis. Il faut ensuite engager une procédure de dégagement. Alors ça peut être plus ou moins difficile. Et ce qui est recommandé en cas de danger, c'est ce qu'on appelle le ghosting, c'est-à-dire disparaître sans laisser d'adresse et d'un seul coup, sans laisser le temps de la rétorsion à la personne qui exerce l'emprise. C'est ce qu'on voit dans les cas de féminicide actuels dont on parle beaucoup, c'est que la femme n'a pas pu se dégager à temps de ce qu'il attendait, c'est-à-dire que la personne qui exerce l'emprise peut être aussi tentée d'être meurtrier, puisqu'il ne supporte pas que la personne qui était sa chose s'en aille.
Voilà, donc, mais pourtant, le meilleur moyen, justement, d'échapper à un pervers, une personnalité toxique, c'est de mettre les distances. Hein. Est-ce qu'il existe d'autres moyens?
Il existe d'autres moyens. Il y a l'intervention de tiers. Dans le cas de harcèlement professionnel, on peut faire intervenir un DRH, parce que l'emprise peut être aussi un narcissique de bureau, un Machiavel de sous-préfecture qui exerce son emprise sur quelqu'un qui est un peu anxieux et qui n'a pas du répondant. Il y a les thérapies. La psychothérapie peut aider la personne à s'en sortir. Donc à travailler sur son schéma de subjugation. Ce sont des personnes anxieuses, dépressives, qui se soumettent aux autres et qui pensent que c'est très bien. Sortir aussi du rôle du sauveteur, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que la personne qui exerce l'emprise peut être améliorée, ce qui est faux. En général, elle ne s'améliorera pas. Et il y a à la fin, si vraiment rien ne marche, si les tiers qui interviennent ne réussissent rien, c'est s'en aller sans laisser d'adresse. C'est
voilà
la recommandation qu'on peut faire, et c'est ce qu'on voit dans la vie, et ce qu'on voit avec les patients, et aussi même avec des collègues qu'on a sauvés comme ça, en leur disant tu pars et tu laisses pas d'adresse, et au bout d'un mois ou deux, tu réapparais ailleurs et autrement.
Voilà, donc finalement, c'est la coupure radicale.
Hein. Exactement. Voilà, il y a des nuances entre la coupure progressive et la coupure radicale, mais il faut presque toujours l'intervention de tiers, que ce soit un tiers type institutionnel, DRH, chef de service, etc., ou la l'intervention des amis, de la famille, qui ramène la personne qui est sous emprise à plus de réalité, plus de réalisme, et lui permet de sauver sa peau.
Oui, c'est compréhensible. Mais bon, les choses ne sont pas toujours évidentes. Hein. Je connais quelqu'un qui était comme ça sous emprise dans le milieu du travail, et le seul moyen qu'il a trouvé pour se dégager, c'était de couper une rupture totale avec la personne qui le persécutait. Et ça, c'est une histoire qui est vieille, hein, qui est peut-être vieille d'une trentaine d'années. Aujourd'hui encore, quand ils se voient dans la rue, ils se disent même plus bonjour. Hein, le prédateur et le prédaté. Voilà, mais malheureusement, tout ça, ça n'a pas éteint la haine.
Oui. Oui, l'essentiel, je dirais, quelles que soient les émotions, c'est de sauver sa peau dans ce genre de situation. Les émotions, après, on peut les retraiter avec un psy, ou on peut elles perdre de son intensité en général avec l'âge. Mais voilà. Ce n'est pas toujours le cas.
Mais il peut y avoir aussi des désirs de vengeance hein, de la part du prédateur qui, du jour au lendemain, ne retrouve plus sa victime. Ça peut arriver.
Oui, vous avez raison, ça peut arriver, mais je pense que le ressentiment, la vengeance sont des sentiments qui sont destructeurs pour la victime. Donc, en général, en thérapie, on ne prône pas le pardon.
Non, c'est pas ce que je disais. Je parlais non pas de la vengeance du prédaté, mais de la vengeance du prédateur. Parce que si...
Ah, vous avez raison. Voilà. La vengeance du prédateur, oui, ça peut être un obstacle, mais il ne faut pas hésiter à ce moment-là à faire intervenir un tiers qui soit plutôt la police à ce moment-là aussi. Il y a un numéro d'urgence que j'ai signalé dans le livre pour les femmes qui sont maltraitées, qui permet aussi de faire intervenir l'écran de la police. Ça calme beaucoup les gens. Les vengeances se calment beaucoup.
Hein. Bien sûr, oui, bien sûr. Finalement, c'est souvent des personnes narcissiques et paranoïaques hein, qui agissent de la sorte.
Exactement, ils ont des traits narcissiques, des traits paranoïaques, et la tétrade noire en général, c'est ce qu'on retrouve. Et en fait, aussi, ce sont des gens que la loi impressionne. Hein. Ils sont quand même pas psychotiques. Ils ont un trouble de personnalité, donc ils sont accessibles et à la sanction et à la menace d'une intervention légale qui pourrait quand même les conduire en prison, hein, tout simplement.
Oui, mais c'est-à-dire le problème peut-être de ces paranoïaques et de ces narcissiques, c'est qu'ils n'arrivent peut-être pas à avoir une vision claire de la réalité. Ils confondent la réalité avec ceux qui fantasment.
Exactement. Mais justement, il faut justement l'intervention de tiers qui résonnent à froid, au-delà d'émotions, et qui font intervenir la loi dans les cas les plus graves, hein, c'est ce que je signale dans le livre. Hein. Et à ce moment-là, bon, bah, tout ça, le château de cartes des illusions s'effondre, et aussi bien le prédateur que le prédaté reviennent à plus de réalité. Donc le centre du livre, c'est de montrer que c'est un couple infernal, la prédation. Il y a aussi le couple infernal entre un dirigeant narcissique, mégalomane, tétrade noire ou légèrement paranoïaque, et le peuple qui l'élit, et une fois que tout est retombé, se dit « mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?»
Voilà, dommage qu'il nous reste plus de temps pour développer ce dernier thème que vous venez de soulever. Alors Jean Cottreau, je rappelle que vous êtes psychiatre honoraire des hôpitaux, ancien chargé de cours à l'Université Lyon 1, membre fondateur de l'Académie de thérapie cognitive de Philadelphie et ancien président de l'Association européenne de thérapie comportementale et cognitive. Et vous êtes l'auteur d'un nouveau livre qui s'intitule « Se libérer de l'emprise et des personnalités toxiques ». Et c'est un livre paru chez Odile Jacob. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Jean Cottreau, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.